Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Sais-tu que 70% des enfants sont mal installés en voiture ? Sais-tu aussi que laisser un manteau dans un siège auto réduit considérablement son efficacité ? Non ? Ce n'est pas ta faute, car s'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes désinformés en France, c'est celui de la sécurité des enfants en voiture. Heureusement, Marilyn travaille d'arrache-pied pour transmettre ces informations si précieuses et essentielles à tout jeune parent. Il y a 5 ans, elle crée Sécurange, une plateforme qui informe et donne des conseils en matière de sécurité routière. Elle nous aide à choisir un siège auto adapté à notre enfant, mais aussi à bien les utiliser pour beaucoup plus de sécurité. Elle a ensuite créé l'association VDR by Sécurange, VDR pour voyager de route, afin de sensibiliser et informer sur la sécurité des enfants en voiture. Cet épisode est à mon sens d'utilité publique, car en tant que parents, il est de notre responsabilité de faire en sorte que nos enfants soient en sécurité en toutes circonstances. Après cette écoute, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Marilyn, bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie de te recevoir pour parler aujourd'hui de sécurité routière notamment. Moi, je t'ai découvert à la télé sur la maison des maternelles. Quand j'étais enceinte, je pense, il y a donc 4 ans.
D'accord.
Et je t'ai découvert comme ça avec les présentations des différents sièges auto. Est-ce que, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et voilà.
Ok, avec plaisir. Et écoutez, déjà bonjour. Moi aussi, je suis ravie en tout cas de faire ça avec toi. Donc moi, je m'appelle Marilyn et j'ai monté le site Sécurange il y a bientôt 8 ans maintenant. Moi, j'ai deux enfants, du coup, qui ont 7 et bientôt 11 ans. Et quand j'ai eu besoin, moi, de m'informer, clairement, les premiers temps, déjà, j'ai fait comme tout le monde, hein, c'est conseil de la famille, des amis, et je me suis équipée avec des choses tout venant, sans vraiment que ce soit un choix très éclairé. Mais quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet et à faire des recherches, disons que moi, j'ai pas trouvé, en fait. En France, en tout cas, j'ai pas trouvé. Et moi, je suis plutôt de nature à chercher, à fouiner, à discuter sur les forums, à aller sur des sites étrangers. Donc, j'ai trouvé au cours de mes recherches personnelles un masse d'informations. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa de les partager parce que je suis pas la seule. Hein, je suis pas la seule à aller chercher ces infos. Comment choisir ? Comment on règle bien un siège ? Comment, à quel moment on change, un peu des questions qu'on se pose de base déjà. Et voilà, j'ai commencé à écrire. Et très rapidement, les gens sont arrivés sur le site et parce que je pense que les gens cherchaient les mêmes infos que moi finalement. Donc voilà comment ça a commencé.
Et à quel moment, pourquoi tu t'es mis à chercher toutes ces informations-là ? Pourquoi tu as voulu pousser plus la recherche ? Parce que tu disais, on prend les avis des amis de la famille. À quel moment ça t'a pas semblé suffisant, en fait ?
En fait, c'est un peu un concours de circonstances parce que à la base, je cherchais surtout à changer de poussette. C'est-à-dire que j'ai fait l'achat d'une poussette. Comme je te disais, un peu sur l'impulsion du « elle a l'air pas mal », mais bon, avec l'expérience qu'on a… au début, et je me suis rapidement finalement rendu compte à l'usage qu'elle correspondait pas à mon besoin, en fait. Il y a des choses, on s'en rend compte qu'une fois qu'on les a et une fois qu'on les utilise quotidiennement. Et à ce moment-là, je me suis tournée justement vers Internet et vers un forum où je suis venue demander des conseils, mais à la base purement pour changer de poussette. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui étaient déjà un peu sensibilisées au sujet qui m'ont dit changer de poussette, c'est bien. Mais il faut quand même s'assurer de la compatibilité avec un bon siège auto. Et ça s'est embrayé comme ça, où on m'a commencé à me dire, attention, siège auto, il y a des crash tests. Donc, on m'a parlé de crash tests. Donc, ces gens-là étaient au courant. Le forum Puriculture existe toujours aujourd'hui. Moi, je m'y tournais plus en tant que maman peu avertie et qui avait besoin de conseils. Et on m'a dit, c'est intéressant, tu verras, il faut regarder, il y a des crash tests, il faut garder son enfant dos à la route, etc. Et je suis pas de nature, en général, à prendre une info, surtout un peu d'un coup, qui est importante. Quoi. On me dit, il existe des crash tests, il y a des sièges qui sont mauvais. Ah ouais, Enfin, et de me contenter de ça et de dire, bah, dites-moi lequel est le bon et c'est bon, quoi. Et je me suis dit, je vais chercher, je vais vraiment creuser le sujet. Comment ça se fait? C'est quoi ces tests? D'où ils viennent? Le dos route, ben, comme beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser pour nous maintenant que c'est une évidence. Mais moi, j'ai eu besoin de cheminer aussi. C'est-à-dire qu'on m'a dit ça. Sur l'instant, j'ai pas été convaincue dès la première fois qu'on m'en a parlé. J'ai fait mes recherches, j'ai été chercher des vidéos, j'ai été chercher des contenus. Et je me suis rendu compte, du coup, sur ce forum, que j'étais pas les seules à me poser ces questions. Et qu'en fait, les gens revenaient sans arrêt se poser les mêmes questions. Tous les jours, les nanas du forum répondaient aux mêmes questions et donnaient les mêmes réponses tout le temps. Je me suis dit, ce serait chouette d'écrire ces infos pour que des gens, bah, voilà, qui soient pas là sur le forum à papoter entre pseudo-copinotes, tu vois, un peu, bah, puissent elles aussi trouver ces infos en tapant juste sur Google, genre acheter un siège auto, choisir un siège auto, changer ma poussette, voilà, que les gens puissent eux aussi avoir accès à l'info.
Comment tu expliques le fait qu'on ne soit pas informé du tout sur toutes les normes de sécurité routière pour les enfants? Ça s'explique comment? Parce que c'est quand
C'est
même
simple en vrai, c'est simple.
assez grave.
Qui c'est qui nous, enfin, qui nous en parle? À quel moment on est formé à ça? On fait des cours de préparation à l'accouchement. Au-delà, bien sûr, de l'accouchement lui-même, on nous parle de portage, on nous parle d'allaitement, de nourrir son enfant, on nous parle éventuellement même de sommeil, de cododo. C'est des sujets qu'on aborde. Mais à quel moment, vraiment, on nous parle la sécurité de notre enfant en voiture. En fait, c'est un
Mais
sujet qui est jamais abordé avec les jeunes parents. Éventuellement, dans certains guides, si tu tombes bien, quand tu as le guide dans la boîte rose ou dans le guide du livre bleu, ou tu as des petits livrets qu'on nous donne à la maternité, mais globalement, c'est déjà un peu tard. Parce qu'en fait, plus tôt tu es sensibilisé, mieux c'est. Quand tu es à la maternité, normalement, tu as déjà acheté ton premier siège.
ben c'est ça. D'ailleurs, on te demande d'avoir quelque chose pour. Enfin, tu peux pas sortir si tu n'as pas quelque chose de sécurisé pour rentrer à la maison.
Ouais, il
Enfin,
y
en
en
tout
a
cas,
qui
moi,
sont
c'était
plus ou moins
le
regardants, mais en effet, normalement,
cas.
de base, on est censé s'assurer. Après, peut-être que tu habites à côté et que tu rentres à pied. Puis,
Ouais.
le siège est déjà installé dans ta voiture. On ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de contrôle effectif, mais c'est une bonne intention. Mais moi, dans la maternité, quand j'ai accouché, j'avais une affichette sur les sièges auto dans les couloirs. Et sur cette affichette, on parlait des sièges de l'ancienne réglementation. Je pense que l'affichette, elle avait 15 ans, je pense. Donc, non. C'est un sujet qui est pas abordé avec les jeunes parents et les spécialistes de la petite enfance, que ce soit en maternité ou les assistantes maternelles ou les infirmières ou même nos médecins. En fait, ils sont pas formés sur ce type de sujet. Et donc, quand une femme enceinte arrive, ils vont aborder certains sujets avec eux. Mais la plupart du temps, on entend d'ailleurs même très souvent qu'ils disent, mon médecin m'a dit que c'est bon, je pouvais changer de siège auto. Mais si tu veux, dans un sens, on va trouver que c'est dramatique qu'un médecin dise ce genre de choses, mais en même temps, ils sont pas formés. C'est-à-dire que je leur en veux pas dans le sens où c'est pas un sujet non plus où eux ont été sensibilisés. En fait, c'est des gens, finalement, on est tous dans le même bateau à ce sujet-là. On n'a jamais été formés et je trouve que c'est dommage parce que, comme tu dis, quand on observe aujourd'hui que les stats montrent que 2 enfants sur 3 sont mal installés en voiture, genre 2 sur 3, 70% des enfants ont une potentielle mauvaise installation, mauvaise utilisation du siège.
Ouais, c'est clair. Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas? Parce que tu vois, le gouvernement fait des campagnes sur la sécurité routière, sur notamment l'alcool au
Ouais.
volant, le téléphone au volant, ce genre de choses. Et enfin, pourquoi ça pourrait être logique, en fait, que ce soit fait dans ces campagnes, tu vois, les enfants sont toujours avec un siège face route, d'ailleurs. Parce que je sais pas, c'est peut-être parce que pour filmer, c'est peut-être plus avantageux, mais c'est vrai qu'on voit jamais dans les spots non plus d'enfants de route, par exemple.
Non, c'est vrai que c'est pas un sujet qui est. C'est vrai que la prévention routière, la sécurité routière font beaucoup de choses pour l'alcool au volant, les drogues, la vitesse. Mais sur le sujet de l'enfant, ben, pas grand-chose, quoi. Il y a un petit module en ligne. Je dois bien avouer qu'il faut, enfin, il faut le dire, c'est triste à dire, mais il y a même des erreurs sur leur site. Donc c'est pas un sujet. Est-ce qu'il n'y a pas assez de chiffres? Est-ce que voilà, le chiffre est pas assez important en termes de mortalité par rapport au reste? C'est possible en effet que la drogue, l'alcool, la vitesse fassent plus de décès et soient plus problématiques et que ce soit un sujet plus, j'allais dire, plus important. Mais c'est rien que de le dire, franchement, ça, c'est embêtant de le dire comme ça. Je sais pas, je pense.
Mais peut-être aussi que dans leurs statistiques, ils ne prennent pas en compte le siège auto, tu vois, dans les accidents mortels, comment, concernant des enfants en accident de voiture, ils mettent peut-être juste pas du tout ça sur le compte du siège auto.
C'est vrai qu'on n'a pas ce niveau de détail, en fait. On connaît le taux de mortalité de l'enfant en tant que passager, mais rarement la cause exacte. Après, je suppose qu'il est aussi compliqué de savoir, après un accident, s'il
Bien
était
sûr.
mal installé, si c'était à cause du siège. On pourrait regarder déjà si le siège était adapté. C'est déjà une chose qu'on pourrait savoir.
S'il portait un manteau aussi.
Exactement, s'il portait un manteau, s'il avait été. Mais après, de la vérité, si le siège avait été bien installé et si l'enfant lui-même était bien installé dans le siège, je suppose que post-accident, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Après, la priorité, généralement, j'imagine, dans ces cas-là, c'est de réanimer
Bien sûr.
et de venir au secours. Donc, peut-être que les gens juste regardent pas à ça. Mais ça peut être intéressant de s'y pencher aussi, si quelqu'un du gouvernement nous entend,
Oui, on ne sait jamais.
sur ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les normes de sécurité concernant les bébés en voiture?
Alors, pour faire déjà une vue d'ensemble, en effet, c'est vrai que notre enfant va passer par à peu près 3 sièges auto normalement dans sa vie. Dans sa vie, donc entre 0 et 10-12 ans. Voilà. Et en effet, le premier siège de bébé, c'est ce qu'on appelle communément la coque. Certains disent le cosy. Il faut garder en tête que Cosy, c'est une marque, en fait. C'est rentré dans le langage commun. Et donc, la coque. Cette coque, le plus souvent, elle est homologuée entre 0 et 13 kilos. Donc, contrairement à ce qu'on pense, en fait, ça s'utilise beaucoup plus longtemps que cette idée générale que ça va durer 4 mois. Souvent, c'est ce qu'on entend, hein, 4 à 6 mois maximum. En fait, ça peut s'utiliser très longtemps. Dans la moyenne, la première année, en fait. Au moins, la première année, c'est très bien. C'est un siège
Mais pour le
auto.
coup, moi, je l'ai gardé 13 mois à ma
Ouais,
coque.
c'est ça. C'est une moyenne qui est plutôt une bonne moyenne d'utilisation. Bah écoute, c'est un produit, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé et plus adapté dès la naissance. C'est important de le dire. On a beaucoup d'a priori sur cette coque. Je sais pas si toi t'avais entendu des choses en mode qu'il passe trop longtemps dedans.
Oui, sur le mal de dos, enfin, il faut pas les laisser trop longtemps dedans, les laisser dormir après, tu vois, s'ils s'endorment dedans, il faudrait les réveiller, les sortir. En tout cas, il y a 4 ans, c'était ce qu'on me
Voilà, mais on le
disait,
dit toujours, hein.
parce que il peut y avoir des malformations ou alors des douleurs, enfin, au niveau de la colonne vertébrale, ce genre de choses.
On le dit toujours, savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre ça déjà, enfin, aucun fait avéré. La seule chose qu'il faut se noter quand même, c'est qu'en effet, quand on est attaché dans un siège auto, contrairement à vous sur la banquette avec la ceinture, l'enfant, il est vraiment très harnaché et qu'il ne peut pas bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité. Donc, il est évident qu'il va avoir besoin de s'étirer, de se défouler, à un moment donné, sur le long terme. On pourrait observer en effet un mal de dos, mais c'est sûr que c'est du bon sens que l'enfant va avoir besoin de gesticuler et de bouger à un moment donné. La question, c'est souvent les parents pensent que s'ils passent à un siège de grand, le problème n'existe plus. Alors qu'en fait, ce point-là de bon sens, c'est exactement le même dans un siège plus grand. Ce soit une, c'est pas la coque en elle-même, c'est le fait d'être attaché et de ne pas pouvoir bouger. Voilà. Donc, il faut essayer de se détacher de cette idée reçue qu'on véhicule, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Il faudrait vraiment rester dans la coque des heures et des heures et des heures tous les jours pour vraiment développer un problème dorsal, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps.
Non.
Le seul moment où on y reste vraiment longtemps, c'est sur un long trajet, les vacances d'été, allez, ou vacances d'hiver, allez, 2 fois par an. Et ce n'est pas sur un trajet de 10 heures de route qu'on va développer un tassement de vertèbres. C'est peut-être le petit point où il faudrait faire une petite attention et dire aux familles de faire attention, c'est que la coque, c'est un siège auto. Elle a cette capacité et cet avantage de se fixer sur la poussette. C'est pratique au quotidien. Ton enfant, tu vas à la boulangerie, tu fais tes courses, ton enfant dort, hop, tu le mets sur la poussette, tu le réveilles surtout pas, évidemment. Il n'y a pas de drame parce que ton enfant fasse une petite sieste dans sa coque. La question, c'est. Le reste du temps, quand ton enfant est réveillé, la coque, ce n'est pas une poussette. Et les gens ont tendance à utiliser la coque comme poussette premier âge, c'est-à-dire de laisser bébé dedans en balade au quotidien et de ne pas forcément utiliser l'assise de la poussette elle-même pour accueillir bébé au début ou une nacelle si on n'a pas une poussette adaptée.
D'ailleurs, en parlant de la nacelle, elle est censée s'adapter aux voitures.
Oui.
On nous dit aussi qu'on peut utiliser la nacelle comme siège auto, alors qu'en fait, c'est très dangereux de le faire.
En fait, en effet, il y a de moins en moins, mais il existe quand même quelques nacelles auto, de nacelles qui soient vraiment homologuées, parce que ce n'est pas le cas tout le temps, c'est quand même important, parce qu'on pourrait aussi avoir des installations loufoques avec des modèles qui sont censés être plutôt des couffins. Sur ces modèles-là, à ce jour, les vrais modèles vraiment sécuritaires sont très limités. D'après les recommandations, il y en a vraiment une que nous, on peut conseiller si les parents y tiennent. Mais dans tous les cas, il est quand même montré que cette position verticale est quand même moins sécurisante que la position dos à la route. Elle maintient moins l'ensemble du corps, c'est-à-dire elle garde moins la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. D'ailleurs, le seul modèle qui est recommandé à ce jour est la seule qui dispose d'un insert intérieur pour maintenir l'enfant. Puisque globalement, dans la nacelle, en fait, l'enfant est dans un espace très large, très vaste, même s'il est bien attaché. Il est beaucoup moins, on va dire, cocoon, tu vois, maintenu, enveloppé, que quand il est dans une coque. Question d'ailleurs que des fois peut paraître, comment on appelle ça ? Tu sais, les parents souvent se disent « Oui, mon enfant, il est trop serré dans sa coque. » Et c'est aussi une raison pour laquelle il change, sans avoir conscience que le fait qu'il soit justement un petit peu confiné, sans être, attention, on ne parle pas qu'il soit étouffé à l'intérieur, mais le fait qu'il soit vraiment calé, c'est ce qui fait qu'il est en sécurité, en fait. C'est ce qui fait qu'il sera le moins secoué en cas de choc ou en cas de, tu vois, de turbulence dans la voiture.
Ouais, complètement. Mais alors, du coup, à quel moment on pense à changer de coque ? Enfin, à quel moment on se rend compte que c'est trop petit ? Pour le coup, moi, je l'ai fait au moment où sa tête passait au-dessus de la coque, en fait. Et puis elle atteignait pas encore le poids maximal non plus, mais c'était vraiment à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est ce qui est recommandé?
Oui, c'est exactement les deux points que tu soulèves. En fait, il faut observer la taille maximum et le poids maximum. Alors, le poids max, il est la plupart du temps clairement indiqué sur la coque. En moyenne, c'est 13, hein, mais il y en a 12, il y en a. Mais le plus souvent, il faut vérifier vraiment étiquette par étiquette. Donc, soyez vigilants, il ne faut pas dépasser ce poids-là. Et ensuite, la taille. Suivant les coques, ça peut être indiqué en taille. Hein, les coques modernes, il y a une taille max, donc on respecte. Les anciennes coques, ce n'était pas indiqué. Et comme toi, il fallait en effet que la tête ne dépasse pas. Quand on arrive, on n'attend pas le dernier moment quand la tête arrive au bord du bord. On se laisse 1-2 cm, tu vois, de marge. Quand on arrive ici, c'est qu'il est temps de changer et de passer à la suite.
D'accord. Et alors, la coque, elle est dos à la route. Ça existe des coques face à la route ?
Pas du tout. On en voit installer dans les voitures des gens, malheureusement.
Ouais.
Mais non, ça n'existe pas. Une coque n'est jamais, jamais face à la route. Le jour où on décide que ce soit un bon ou un mauvais choix, c'est pas trop le sujet pour le moment, mais si un jour on décide de passer son enfant face route, il faut vraiment faire le choix d'un siège qui permet de le faire et qui a une fixation dédiée. Parce qu'installer un siège comme la coque face route, là, on est vraiment dans une situation à risque. Enfin, le siège va s'envoler dans le véhicule. Il n'y a pas de fixation.
Et légalement, il y a un âge limite, enfin, on est obligé de mettre les enfants de route, il me semble, non ?
Oui, il y a une étape de la vie où c'est obligatoire. Donc, justement, sur le temps d'usage de la coque, en fait, on a aujourd'hui, je sais que c'est un peu compliqué pour les familles, on est en transition entre deux normes. C'est-à-dire qu'il y a deux types de sièges auto sur le marché. L'ancienne génération, qui sont encore très bien, hein, faut pas inquiéter les familles là-dessus, et la nouvelle génération qui a pour vocation d'être encore meilleure, encore plus sûre. Les anciennes coques, les anciens sièges, obligeaient au moins le dos route jusqu'à 9 kg. Donc, c'est globalement peu, mais ça avait le mérite au moins d'obliger le nouveau-né et les premiers mois d'être dos route. Les nouvelles coques sont obligatoirement au moins, enfin les nouveaux sièges d'ailleurs, coque ou siège, sont obligatoirement dos route jusqu'à 15 mois. Donc, je trouve encore que d'après les recommandations, c'est trop peu, hein, parce qu'on recommande au moins entre 2 et 4 ans dans l'idéal. Donc, 15 mois, c'est peu, mais c'est quand même beaucoup mieux que celle d'avant. Et si déjà toutes les familles mettaient leurs enfants dos à la route jusqu'à 15 mois, ce serait déjà formidable.
Complètement.
On part de loin.
Et dans la coque, quand le bébé est installé, il est... parce que c'est quelque chose qui m'horripile un petit peu de voir autant de manteaux dans les coques. Et on est d'accord, on ne met pas le manteau dans un siège auto.
Oui, on est d'accord, évidemment. C'est une information qui est trop peu connue des familles et qui est pourtant indiquée par le coup cette fois-ci dans les notices des sièges auto. Mais c'est rare.
D'accord.
Ouais, c'est rare quand elles ont été ouvertes, il faut être honnête. Ou quand elles ont été au moins lues dans son intégralité. Enfin,
Non, tu regardes juste les dessins pour l'installer en général, tu lis pas.
Exactement. Donc, c'est souvent indiqué qu'il faut éviter les épaisseurs à l'intérieur. En plus, pour ce qui est du cas du bébé, c'est vraiment la partie où c'est le plus facile à appliquer. Parce que déjà, installer ce qu'on appelle un nid d'ange ou une chancelière dans la coque, c'est aussi avantageux en sécurité que c'est avantageux en confort et en praticité. Clairement, mettre un blouson ou une combinaison à un bébé, c'est pénible. Et pour lui,
c'est l'enfer.
Et puis pour lui, clairement. Enfin, moi, je voudrais pas être là-dedans. Ouais. Je sais pas toi, mais
ah, moi non voilà. Plus. Non, moi non plus. Et puis d'ailleurs, j'avais acheté une fois, pour l'anecdote, une combinaison comme ça où on était allé au ski avec ma fille. Elle avait 10 mois et en fait, elle a servi qu'une semaine parce que impossible de mettre ce genre de. Enfin, ils sont tout boudinés, ils sont tout
ils
pas
peuvent
bien
pas
en fait.
Bouger.
Ils n'arrivent pas à
bah
bouger.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est
on
ça.
Est d'accord. Et puis en plus, ça veut dire que tu fais quoi? Tu arrives dans un magasin, tu l'enlèves pas en fait. Parce que c'est déjà que tu as mis 1 heure à le mettre, tu vois, tu vas pas l'enlever. Donc tu arrives dans le magasin, bah le gamin il a trop chaud, il l'enlève pas. Tu ressors, il fait froid, bah du coup le truc il perd en avantage parce que chaud froid. Enfin, ouais. Finalement, tu arrives dans la voiture, bah tu le gardes parce que c'est pénible et du coup là tu entraves le bon fonctionnement du siège auto. Hein. Les gens pensent qu'il suffit de bien serrer, qu'il suffit de bien tendre. Malheureusement, ils se rendent pas compte à quel point cette épaisseur vient vraiment créer un espace et un mouvement possible de l'enfant dans le siège qu'il ne devrait pas faire. L'idée du siège.
Bon, le test est assez simple à faire finalement,
oui.
Puisque il suffit de mettre l'enfant avec le manteau pour tester la ceinture et après enlever le manteau, remettre l'enfant et bien voir qu'il y a quand même un énorme écart finalement.
En fait, on voit une marge très importante, mais donc en effet, c'est un test facile à faire. Mais souvent, les gens pensent qu'en serrant bien, ils compensent en fait cet écart sans se rendre compte qu'en fait, en serrant bien avec leurs mains, ils ne reproduisent pas un centième de la force qui va être exercée lors d'un choc. Et donc, ce que
d'accord.
eux pensent bien serré, en fait, est une infime partie de ce qui va se passer lors de l'impact. Et la matière, elle va se comprimer d'une force tellement importante que l'espace, il va se recréer et l'enfant va être pas éjecté. Enfin, effectivement, dans le pire des cas, il pourrait être éjecté si on a mal fait le serrage et qu'en plus on a un manteau. Oui, c'est possible. Mais si on a bien serré, mais qu'on a un manteau, on va créer un mouvement. Et l'idée du siège, c'est que l'enfant, lui, il soit le moins chahuté possible, donc il bouge le moins possible. Donc, que les cervicales soient le moins sollicitées. Donc oui, on crée du mouvement et l'objectif, c'est de le réduire.
Ok. Donc vraiment, pas de manteau. Surtout que tu disais, c'est vrai que quand ils sont tout bébés, c'est assez facile. Il existe plein de choses. Mais dans le commerce traditionnel, comme chez les créateurs d'ailleurs, on trouve des jolis nids d'ange. En plus, ça a l'air tellement agréable.
Mais oui.
Dedans. c'est tout confort. Et un nid d'ange, en fait, c'est finalement une couverture dans laquelle il y a des trous.
Oui, c'est
et
ça.
Et la chancelière aussi.
En fait, il y a des passages.
Et on passe les ceintures par ce truc, enfin par les trous. Et donc, en fait, l'enfant est directement attaché au-dessus de ses vêtements classiques, enfin ses vêtements du quotidien et pas un manteau, ce qui permet donc du coup de bien l'attacher et de le couvrir parce que ça se referme. Oui, je fais les gestes, personne me voit, mais ça se referme au-dessus comme un petit burrito en fait.
C'est
finalement.
Ça fait comme une couverture mais que l'enfant peut pas retirer parce que c'est vrai que le problème, on pourrait très bien utiliser une couverture mais à base de coups de pied et de mouvements avec les mains, la couverture va pas tenir chez un tout petit. Donc, l'avantage du nid d'ange ou de la chancelière, c'est qu'en effet, le système est vraiment semi-fixé à l'intérieur, le harnais passe à travers et le harnais est contre le corps de l'enfant et l'enfant est couvert par-dessus. Et là, bah, du coup, je sors, je l'ouvre, je vais dans un magasin, je peux l'ouvrir, j'ai là un endroit, il fait froid, je le referme.
Complètement.
Enfin, c'est hyper pratique.
C'est
pour les
hyper
familles.
Pratique. Ouais. Et puis de manière générale, l'avantage de la coque, c'est que tu l'enlèves de sa base selon ce que tu choisis, mais de la voiture. Donc en fait, tu peux déjà l'avoir couvert en sortant de chez toi.
C'est ça, c'est une manipulation. C'est une installation que tu fais à l'intérieur. Donc
voilà.
Posé, tranquille au
donc,
chaud.
Il est pas, il est pas au froid le bébé. Donc ça c'est assez facile. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre plus les manteaux dans les sièges auto quand les enfants sont un peu plus autonomes et quand ils commencent à marcher ou là ils sortent de la maison avec le manteau et ils vont dans le siège auto qui ne bouge pas de la voiture.
C'est ça. Alors après ça dépend bien sûr pour le coup d'après je peux comprendre les gens disent oh là là mais ça va être compliqué. Il y a plein de façons de faire et il faut trouver la plus adaptée à son mode de vie. Est-ce qu'on a un garage? Est-ce que la voiture elle est dehors? Est-ce qu'on peut faire chauffer légèrement la voiture avant d'y aller? Mais moi je vois des familles qui ont donc la maison, la voiture garée devant la maison et qui mettent un manteau pour sortir de la maison jusqu'à la voiture. Mais finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans ces contextes-là déjà. Donc c'est le genre d'endroit où on pourrait simplement s'éviter cette manip. On sort directement, on va dans la voiture, on s'installe dans le siège auto et on se couvre avec son manteau ou une couverture qui reste dans la voiture. Moi, j'ai une
C'est
couverture, hein.
exactement ce que je fais d'ailleurs.
Voilà.
Que la voiture soit devant chez moi ou même à l'autre bout de ma rue, ma fille sort sans manteau.
Voilà. Bah, voilà. Après, bon, s'il fait vraiment très froid et qu'on est inquiet, on peut éventuellement mettre le manteau si la voiture est plus loin. Mais par exemple, le poncho est une bonne solution. Par exemple, quand on va plus loin, on enfile le poncho, on va jusqu'à la voiture et le poncho, il nous suffit de le soulever en fait au moment de s'installer dans la voiture, puisque le harnais peut passer dessous. Hein, on a rien, on n'a pas de manche, donc il est facile d'aller installer l'enfant avec son harnais contre lui et de pas gêner le harnais, quoi, et de pas avoir de manipulation à faire.
Complètement. Et c'est un geste finalement qui se fait assez facilement. Moi, tu vois, ma fille, même si elle est, on revient de balade, elle a son manteau. En fait, c'est un automatisme pour elle de l'enlever son manteau avant d'entrer dans la voiture, en
Si on
fait.
met ces choses-là en place très rapidement,
Ouais.
les gens vont trouver ça pénible au début, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en effet, très rapidement, ça va devenir un automatisme pour l'enfant. Donc avec mes enfants, moi, je fais plus de manip, en fait, aujourd'hui. Quand on arrive à la voiture, ils savent, ils s'installent dans la voiture et ils enlèvent leur manteau. Donc s'il fait vraiment très froid, on prévoit genre un gilet polaire, tu vois. En dessous, ils ont un gilet, donc ils n'ont pas froid quand on enlève le blouson dans la voiture. Et ils ont toujours une petite couverture si les premières minutes, la voiture est un peu froide. Mais bon, rapidement, ils enlèvent.
Mais
Les
voilà,
enfants
après, les
s'adaptent
voitures
vite, hein.
d'aujourd'hui chauffent relativement vite aussi.
Oui.
Enfin, je veux dire, tu mets le chauffage en 3 minutes, généralement, c'est déjà plus
C'est
chaud.
sûr, c'est vraiment sûr. Et bah, c'est sûr qu'il faut arrêter aussi de se dire, mais c'est bon, on va pas loin, on fait que 2 km. Parce que c'est franchement là, enfin, faut vraiment avoir en tête que c'est là qu'on a le plus de risques, en fait. C'est
À
pas.
partir du moment où on monte dans la voiture, il y a un risque de toute façon.
Oui, c'est sûr. Mais il y a plus en plus de risques dans les trajets qu'on fait quotidiennement, puisqu'on a tendance à être moins attentif. En fait, c'est des trajets qu'on connaît. On a moins d'accidents sur l'autoroute, on est plus vigilant quand on sait, on connaît moins la route, on sait la vitesse. Les accidents sur l'autoroute sont beaucoup plus violents, mais il y en a nettement moins qu'il y en a dans notre quartier, près de chez nous, au quotidien.
Complètement. Alors, une fois on a passé la coque, enfin, l'enfant est trop grand, on passe sur un nouveau siège. Là, il y a beaucoup de parents qui se dirigent vers un siège face-route à ce moment-là. Mais il existe des sièges de route adaptés à des enfants, à des bambins, on dira,
Ouais.
à partir de 12-15
C'est
mois.
ça.
Ça existe aussi en deux routes. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, choisir aussi un deux routes.
Évidemment. Après, à la décharge des gens, si tu veux, ça existe, c'est vendu par des grandes marques. Ils ont tendance à se dire que si c'est commercialisé et homologué à partir de 9 kilos, pourquoi ce serait dangereux et pourquoi ils le feraient pas? Je peux tout à fait l'entendre. Après, aujourd'hui, justement, on essaie de faire de la sensibilisation pour leur expliquer que, bah, en effet, les deux sont possibles, les deux sont légaux. Maintenant, tout ce qui est légal n'est pas forcément bon pour nous, hein. Ça peut être dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans
Le
le
tabac.
tabac, exactement. Voilà. Après, c'est des choix. Il suffit d'être informé. Après, chacun, moi, j'ai tendance à respecter, hein. Mais je préfère autant. Enfin, ce que j'aimerais, c'est que le jour où quelqu'un passe face route, il l'ait fait en connaissance de cause, que ce soit un choix et pas l'avoir fait sans savoir que rester dos à la route pour un enfant le plus longtemps possible, c'est 5 fois plus sûr. Et ça, on ne le sait pas, on ne nous le dit pas. Je rigole souvent avec les gens en leur disant que finalement, si on pouvait, mais c'est une vaste blague parce qu'en effet, ce n'est pas possible, même pour nous, ce serait plus sûr, puisque c'est la position en elle-même qui rend le choc plus sécurisant, puisqu'en fait, il t'évite ce qu'on appelle, nous, le coup du lapin. Tout le monde connaît, hein, le coup du lapin, la pression, la tension sur les cervicales, c'est-à-dire cette tête qui est projetée violemment en avant et qui est rejetée en arrière. Les cervicales, elles sont vraiment malmenées. Donc chez nous, c'est commun et c'est déjà violent et dangereux. Pour un enfant, déjà, il a les cervicales qui sont pas terminées. Ensuite, il a la tête qui est proportionnellement très grosse et très lourde par rapport à son poids total et à sa taille totale. Hein, chez un nouveau-né, ça fait un tiers, un quart de sa, enfin, environ, je crois que c'est un tiers de sa taille totale, juste la taille de la tête. Donc, t'imagines ce que ça représente par rapport à nous, et ça ne fait que réduire jusqu'à l'âge adulte. Le poids de la tête est extrêmement lourd à porter. Donc, un choc sur les cervicales, pour les moins de 2 ans déjà, ça peut être vraiment fatal. Entre 2 et 4 ans, c'est encore pas mature et ça peut être déjà extrêmement violent et douloureux et dangereux. Mais c'est à peu près vers 4 ans que ça commence à se solidifier et qu'on commence à mieux pouvoir encaisser un choc. Maintenant, le plus tard est le mieux. Hein, si on a un petit gabarit, comme les miens, moi j'ai la chance d'avoir des petits gabarits. Si je peux les garder 5 ans de route, Bah, tant mieux, en fait. Tout ce qui est le plus est mieux disant pour ce pour ça. Et je conseille souvent aux parents qui prennent les transports, par exemple s'ils prennent le bus, eux-mêmes adultes, de s'asseoir de route pour qu'ils puissent ressentir ce que ça représente en termes de le bus qui freine. Eux-mêmes peuvent se rendre compte que c'est juste du bon sens, c'est factuel, c'est pas enfin, c'est pas une croyance en fait, c'est de la science.
Oui.
Au niveau du choc, quand tu es de route, tu es plaqué au fond du siège et ta
Ouais,
tête
c'est ça.
reste bien alignée avec ta colonne vertébrale. Il n'y a pas de pression. On passe pour un enfant de moins de 4 ans, on passe sur une vitesse de 50 km/h, c'est-à-dire une vitesse vraiment moyenne, très faible en ville, hein. On passe de 300 kilos sur la nuque quand il est face route à seulement 50 kilos. Donc de 300 kilos à 50 kilos, tu vois bien que c'est hyper important la différence de poids exercé. Et du coup, en termes de risque de blessures graves, on passe de 40% de risque de blessures graves à seulement 8% quand on est de route. C'est pour ça qu'on parle de 5 fois plus sûr, de 40% à 8%. Donc ça vaut le
Ouais,
coup
quand
d'y
même.
penser quand même. Ça vaut le coup.
Bah oui, complètement.
Donc comme tu disais tout au début dans ta question, faut rassurer les parents dans le sens où les sièges de route de grand sont pas les coques. Il y a des sièges faibles pour, il y a des sièges qui offrent l'espace pour, la posture qui accepte des poids jusqu'à 18 voire 25 kilos, les plus forts gabarits, et qui vont sur des tailles entre 105 et 125 cm. Donc on peut accueillir vraiment des grands de route dans des postures confortables pour un enfant. Voilà, avec une bonne visibilité sur l'extérieur, contrairement à ce qu'on pense, un enfant de route ne voit pas la banquette.
Ah non, non, du
Hein,
tout.
il voit
Ah,
dehors.
pour le coup, ma fille, tu vois, elle va avoir 4 ans là bientôt. Et elle refuse complètement d'être en fast route. Hein. On lui
C'est
propose,
mignon.
parce que là, mais c'est trop drôle. Mais là, pour le coup, peut-être que le siège qu'on a choisi, nous, c'est en termes de centimètres. Elle n'est pas en poids, elle pourrait y rester
Ouais, il y a les
encore
deux. Tu as
longtemps.
quoi, toi?
Et c'est un qui va jusqu'à 100,
105?
105
Ouais.
centimètres. Ouais. Et elle fait 105
Donc,
centimètres.
t'arrives au bout
Donc,
là.
ouais, j'arrive au bout, mais là, maintenant, en fait, c'est même pas une question de changer, c'est de la convaincre, en fait, parce que elle veut pas.
C'est étonnant, c'est rare.
Elle
Souvent,
veut
les
pas.
enfants sont pressés de passer au siège de grand.
Bah là, pas du tout, mais parce que je crois qu'on lui a vraiment expliqué, hein, parce que tu vois, quand elle était à la crèche, il y a peut-être, je sais plus quand est-ce qu'elle nous a fait la réflexion, il y a peut-être un an, l'année dernière, oui, sa meilleure copine, elle était en fast route. Et on est parti un soir en même temps, et elle m'a demandé, elle me dit, mais pourquoi ma copine, elle est pas dans le même sens? Alors je lui ai expliqué, en fait, la sécurité et le pourquoi elle était de route, et elle m'a plus jamais questionnée. Et c'est juste normal pour elle, en fait. C'est juste parce qu'elle a compris que c'était plus
On
sécuritaire comme
forme
ça.
vraiment la génération Sécurange de demain, quoi. Donc c'est vraiment
Ouais,
chouette.
c'est ça.
C'est vraiment chouette.
C'est ça. Et je pense qu'en juste en expliquant, après, moi j'entends, hein, parce que tu vois, quand j'en parle, c'est vrai qu'on me dit beaucoup, ah oui, mais moi, mon enfant, il refuse absolument le deux routes, il se débat, il tape dans les sièges et tout ça. C'est possible, ça aussi.
Bien
Après, on
sûr.
peut pas non plus, enfin, faut s'adapter à son
C'est
enfant.
dur de faire porter à des enfants le choix de leur sécurité. C'est un peu. Je
Ouais.
trouve que je peux comprendre, hein, que les parents soient inquiets, mais souvent. Ils font porter ce poids-là en disant, c'est mon enfant qui veut pas. Et je trouve que, enfin, si demain il y avait une conversation autour de mon enfant ne veut pas, quand je lui interdis de jouer dans la
Prendre un traitement
cuisine,
médical.
ouais, c'est ça, ne veut pas prendre son traitement ou veut jouer avec la plaque du four. Ou...
Ouais.
On serait intransigeant parce qu'en fait, la différence entre un traitement médical et jouer avec un truc comme le feu, on est déjà convaincu. Et en fait, souvent, je pense qu'il faudrait que les parents soient un peu plus convaincus à quel point c'est important. Et à quel point ça peut vraiment sauver des vies de faire ce choix. Le taux de mortalité en Suède, où les enfants restent de route, des enfants de moins de 4 ans, leur taux de mortalité, il est proche de zéro. Alors que nous, on voit
Ouais.
une différence à partir du moment, c'est-à-dire que le taux de mortalité des tout petits qui sont forcément de route est très faible, et il augmente cruellement justement à partir de 9 mois, la moyenne où chez nous en France, on passe les enfants face route.
Ouais.
Et c'est assez... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est flagrant en tout cas à quel point c'est
Complètement.
efficace le jour d'un accident. C'est-à-dire que les gens ont tendance à être fatalistes en pensant que le jour d'un accident grave, ça ne fera pas la différence, mais si, ça fera vraiment la différence en fait.
Et il y a aussi ce côté de bah oui, mais j'aurai pas d'accident, tu sais, de se
Oui,
dire
de toute
ben
façon,
c'est
il faut
rare,
bien
ça
rouler.
existe pas ou ça va pas m'arriver,
Ouais.
tu vois, ça va pas m'arriver à moi, ça arrive qu'aux autres,
C'est très français le côté
et
ça n'arrive qu'aux autres. Hein.
on... Ouais.
Écoute, nous sur Sécurange, on a énormément de témoignages très réguliers et des accidents, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et c'est très rarement
Ouais.
à cause de nous. Hein. Ça peut, hein, ça, y en a des parents qui disent honnêtement, bah voilà, j'ai perdu le contrôle, j'étais fatiguée.
Oui, bien sûr.
Hein, nous-mêmes, on n'est pas infaillibles, même si la plupart du temps, on est très attentifs, surtout quand on a nos enfants en voiture, d'autant plus.
Ouais.
Mais il n'y a pas que nous. Hein, quelqu'un qui vous refuse la priorité, quelqu'un qui vous rentre dedans, un obstacle qui se présente sur la route qui n'était pas prévu. On a très souvent donc des témoignages de familles qui viennent nous dire, bah voilà, j'ai eu un accident, je suis rentrée dans un animal, on m'a bloqué la route et je voudrais vous remercier parce que du coup, mon enfant va bien. Voilà, j'ai mis en place les choses et du coup, il y a beaucoup plus d'accidents qu'on le pense. Beaucoup. Et des accidents du quotidien, hein, on ne parle pas forcément de...
Oui, pas forcément un accident mortel non plus. Hein.
Voilà.
Ça peut être assez un choc qui paraît minime, mais qui aurait pu avoir des conséquences et qui finalement n'en a pas
Exactement.
Tellement avec un bon siège, quoi.
On oublie, hein, moi j'ai testé un petit simulateur avec juste un système qui freine à 7 km/h. Je t'assure que la ceinture, je l'ai sentie sur moi. Donc dites-vous bien que en ville, en roulant même à 50, si vous deviez freiner très fort, subitement, déjà vous allez le sentir et imaginez pour un enfant ce que ça peut représenter.
Et il y a aussi un gros point sur le siège, après pour les plus grands, il y a ces espèces, en tout cas moi j'avais ça quand j'étais petite et j'en vois encore, tu sais
les galettes,
les rehausseurs là, les trucs avec comme un accoudoir, mais il y a pas de dossier.
Ouais.
Et ces trucs-là, ça sert à rien. Enfin, moi, je vois pas où est la sécurité sur ça, en fait.
Non, en fait, ça s'appelle vraiment un rehausseur. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment la notion de rehausseur dans son,
ouais,
à son paroxysme, puisqu'en fait, ça ne se contente de rehausser l'enfant. Voilà.
Oui, mais c'est dangereux. Enfin, je veux dire, en cas de choc, il s'en va.
Ce qu'on a tendance à oublier, en fait, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est pas tant, en fait, que le truc va s'en aller, c'est que la ceinture a été conçue pour des adultes et que ce qu'on essaye de faire avec déjà un bon rehausseur avec dossier, tout ça, c'est d'essayer d'adapter la ceinture à l'enfant, ce qui n'est pas une chose évidente parce qu'elle n'a pas été conçue pour lui. Ce qui va se passer avec un rehausseur basique, sans dossier, les galettes, c'est qu'on va se contenter de mettre l'enfant à hauteur d'un adulte. Bon, on va le rendre plus grand, quoi. On va le rehausser.
Ouais.
Est-ce que le rehausser en lui, en soi, ça va faire de lui un adulte? Absolument pas, ni en termes de résistance au choc, ni en termes de posture, en rien. Son développement de bassin,
de gabarit, rien. Non, vraiment rien.
Donc non.
Complètement.
Donc je suis pas une extrémiste. Je pense que ce système, il pourrait être adapté aux vraiment très grands enfants. Ça pourrait être envisagé à 9 ans. J'ai un enfant qui est très grand. En largeur, il rentre plus. J'ai 3 enfants dans le véhicule. Voilà. Je veux pas culpabiliser les familles, mais je voudrais qu'ils comprennent qu'en tout cas, c'est pas un choix à faire en première intention, clairement. Un dossier, c'est fondamental parce que le dossier, il va faire quoi de plus? Il va apporter de la protection latérale à l'enfant, hein, parce que les chocs latéraux, faut pas non plus négliger, ils sont aussi très communs. Et taper la tête contre la portière, c'est d'une extrême violence pour un enfant ou un adulte, enfin pour un corps humain. Hein. Il va protéger donc le buste et la tête en cas de collision latérale. Il va aussi parfaitement guider la ceinture au niveau de l'épaule, ce que va pas faire un rehausseur sans dossier. Hein. Va vraiment placer la ceinture au niveau de l'épaule. Et ces sièges-là sont évolutifs, c'est-à-dire qu'il va se régler au fur et à mesure que je vais monter le dossier et ce qu'on appelle la tétière, là, l'espace où je mets la tête. Je vais monter ce dossier et cette tétière et je vais en même temps monter le guide ceinture. Et le guide sera toujours bien placé au niveau de l'épaule. Un placement parfait de la ceinture, c'est important parce qu'en fait, la ceinture au quotidien, ça sauve des vies, c'est indéniable. Mais une ceinture mal utilisée, c'est dangereux. Une ceinture qui reposerait sur le thorax de travers, sur le ventre, qui ne serait pas sur l'épaule, qui d'un coup descendrait au niveau du bras, ça pourrait être fatal. C'est-à-dire que là, ça ne sert plus à rien. Hein, souvent, on voit les enfants avec la ceinture sous le bras parce que du coup, elle les gêne vu qu'elle n'est pas bien guidée. Elle est dans le cou. Alors, dans le cou, elle est dangereuse, mais sous le bras, elle est encore plus dangereuse. C'est pas parce que l'enfant est attaché d'une manière ou d'une autre qu'il est en sécurité. Il faut qu'il soit bien attaché. Ça fait une vraie différence.
J'allais te poser une question sur les sièges, justement, après 4 ans. Enfin, tu vois, les sièges, les derniers sièges, enfin, les plus évolués, enfin, en termes de grandeur. Est-ce qu'il y a encore un système de harnais, tu sais, ou alors c'est forcément la ceinture de la voiture?
Il y a un stade où la ceinture va devenir obligatoire. Donc, la plupart des sièges auto, en tout cas, les sièges auto face route, vont jusqu'à la plupart 18 kilos. Et à 18 kilos, il faut passer à la ceinture. Il y a quelques sièges auto à harnais prolongé face route jusqu'à 25. Ils sont rares, mais ils existent. Quand on a des gabarits, par exemple, d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui fait déjà 18 kilos, clairement, il vaut mieux se
Ouais.
tourner vers un harnais prolongé parce que passer à la ceinture trop jeune avant 4 ans, c'est une bêtise. C'est une bêtise d'un point de vue autant maturité physique parce que supporter un choc avec une ceinture, c'est important. Et aussi maturité cérébrale dans la mesure où rester avec une ceinture, ça demande de rester bien assis. Ça demande de ne pas jouer avec, ça demande de ne pas se pencher en avant. Il ne faut pas trop en demander à un jeune enfant, comme tout à l'heure, ne pas lui faire porter le poids de sa sécurité, en fait. Ce n'est pas à lui. Donc c'est trop tôt. Donc oui, un harnais prolongé peut répondre à ces enfants qui ont grandi plus que les autres, qui sont un peu plus imposants. Dos
Ouais.
route, il y a des harnais 25 kilos. Et d'ailleurs, ça peut aussi répondre à ton besoin si tu veux garder ta fille dos route. Tu as des sièges auto de grands, dos route de grands, qui permettent de rester dos à la
Ouais.
route jusqu'à 1,25 m et
D'accord.
25 kilos. Donc voilà, on peut avoir
OK.
des harnais prolongés jusqu'à 18 ou 25. Après, à un moment donné, oui, la ceinture devient obligatoire.
D'accord. Et j'ai vu des sièges aussi, ça existe, mais pour les plus petits, tu vois, tu as le dos route et tu as les sièges en face route avec un bouclier. Enfin, tu sais, le truc. Est-ce que c'est plus efficace que sans? Enfin, à quoi ça sert ce
Alors,
bouclier-là?
c'est pas plus ou moins efficace, c'est différent, c'est intéressant. Le bouclier est une alternative au harnais, face route, uniquement face route. Dos
Ouais.
route, ça n'a pas d'intérêt, étant donné qu'en fait, l'enfant étant projeté en arrière, il n'est pas projeté sur son harnais, c'est pas là qu'on fera une vraie différence. Face route, on est
D'accord.
projeté en avant, donc on est projeté sur son système de retenue. On peut être projeté sur un bouclier ou projeté sur un harnais. La différence, c'est quoi? Le harnais, il va avoir l'avantage d'être réglable en hauteur, par exemple. Il a un niveau minimum, on va pouvoir le faire monter avec la puissance de l'enfant. Le harnais, il te maintient entre les jambes, aux épaules et sur les hanches. Il te maintient en 5 points la plupart du temps. Par contre, le harnais, tu peux facilement mal le régler, trop haut, trop bas, mal le serrer. Il faut être plus vigilant à son utilisation pour en avoir un bon usage. Le bouclier, le concept du bouclier, c'est de ne pas retenir l'enfant au niveau des épaules et qu'en cas de choc, il s'enroule un peu autour. C'est-à-dire qu'il est retenu uniquement au niveau du torse. Et s'il s'enroule autour, les constructeurs de boucliers mettent en avant que ça réduit un peu la pression sur les cervicales. Pas au point de devenir aussi performant qu'un siège de route, mais quand même, ça a un avantage de réduire cette pression. En revanche, il va avoir l'inconvénient, en effet, il exerce une certaine pression sur le thorax, contrairement au harnais. C'est un produit qu'on ne va pas conseiller pour un très jeune enfant, justement, parce qu'il y a besoin quand même d'être résistant. Même si c'est homologué pareil dès 9 kilos, malheureusement. Donc, on va conseiller
D'accord.
d'attendre plus tardivement pour un enfant après 2 ans, pourquoi pas. Et aussi, le bouclier ne se règle pas en hauteur. Et pour pouvoir s'enrouler autour, il est important qu'en fait l'enfant soit assez grand en taille. C'est-à-dire qu'il faudrait
Ouais.
qu'il puisse un peu passer sous les aisselles pour qu'il y ait ce vrai mouvement où je m'enroule. C'est-à-dire que si je suis trop petit et que j'ai le bouclier au niveau sous le menton, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que le bénéfice du bouclier, il n'existe pas s'il n'est pas bien positionné. Donc il y a avantages et inconvénients. L'avantage du bouclier, c'est que mal l'installer, c'est quasiment impossible, hein. Ça se pose devant l'enfant et on passe à la ceinture à l'intérieur. C'est très simple d'usage. Donc ça, c'est quand même comment on appelle ça, un avantage.
Ouais, bien sûr.
Et entre les deux, il est quand même plus difficile pour un enfant un peu bougeon de s'échapper d'un bouclier, contrairement à s'échapper d'un harnais et passer les bras. Voilà, aussi pour ça, certains des fois choisissent le bouclier. Mais c'est important en tout cas de
D'accord.
respecter des tailles et des poids vraiment suffisamment importants pour bien utiliser un bouclier.
Ok. Et alors, quid de l'ISOFIX face à la ceinture, en fait, parce qu'il y a des sièges. Enfin, maintenant, dans les voitures, depuis 2011, je crois, c'est obligatoire l'ISOFIX.
Alors, il y a eu une phase où ça a
Ou c'est plus
été.
courant?
Maintenant, c'est sur toutes les voitures qui sortent
Ouais.
d'une concession. Toutes les voitures neuves, elles sont toutes équipées. En effet, c'est obligatoire depuis longtemps.
Ouais.
Sur les vieilles voitures, ça peut exister déjà parce qu'il y a une étape où les constructeurs n'étaient pas obligés mais commençaient déjà à mettre en place. Donc, vous pouvez avoir des
Ouais.
vieilles voitures. Moi, j'avais un modèle de 2003, il y avait l'ISOFIX.
D'accord.
Alors, aujourd'hui, c'est très visuel, hein. Il y a des trucs où c'est marqué ISOFIX, donc on ne peut pas louper qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Sur les anciennes, il faut vraiment aller chercher, hein. Il faut vraiment glisser ses mains entre le dossier et l'assise et aller toucher. C'est que deux anneaux métalliques. Ça paraît, on en fait tout un biais, mais en fait, c'est juste deux anneaux métalliques qu'on va avoir à gauche et à droite de l'assise. Et souvent, les gens pensent ne pas l'avoir, et en passant ses mains dans la banquette, ils se rendent compte que finalement, ils en sont équipés.
D'accord.
Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est. Alors, oui et non. Il faut rassurer les familles. Un siège ISOFIX, c'est un peu plus cher, et toutes les voitures n'ont pas l'ISOFIX. Un siège avec la ceinture, si on fait bien son installation, c'est tout aussi sûr.
Oui.
C'est tout aussi sûr, je dis bien si on fait bien l'installation. Pourquoi le gros avantage de l'ISOFIX là-dessus et pourquoi les constructeurs aimeraient emmener un maximum les familles vers l'ISOFIX, c'est parce que le taux d'erreur d'utilisation est important. Les gens n'ouvrent pas les notices, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ils font beaucoup d'erreurs de passage, pas au bon endroit, pas assez tendu, ils ont oublié un endroit, etc. Et malheureusement, dans ces cas-là, en effet, bah, le siège perd en. Il perd en compétence, quoi. Il est beaucoup moins fin. Il peut ne pas être même du tout efficace s'il est mal installé. Avec l'ISOFIX, le taux d'erreur d'utilisation, il est fortement réduit. C'est-à-dire que c'est un crochet qui va, un système de clip, en fait, hein, c'est comme une prise. Je viens clipper mon siège dans la voiture. Forcément, en un geste, quasiment, hein, j'ai verrouillé mon siège et il est solidaire de la structure du véhicule. Ça apporte une sécurité dans ce sens-là. Maintenant, voilà, si on est vigilant, si on fait bien ses passages ceinture, si on vérifie que la ceinture n'est pas un peu détendue, qu'on vérifie de temps en temps, il n'y a pas de raison, il ne faut pas inquiéter non plus les familles qui n'en sont pas équipées.
Et puis c'est un gain de temps aussi au quotidien, l'ISOFIX quand même mine de rien, parce que tout ce qu'on sait avec la coque, t'as la base qui est déjà mise, t'as juste à clipser. T'es plus, enfin moi j'ai l'impression que t'es plus confiant aussi dans ça, parce que parfois c'est sport d'attacher un siège avec une ceinture, c'est pas si
Disons que tu es
évident,
censé, à part en effet la coque où tu fais et défais, et là au quotidien en
hein.
effet tu vas le refaire plein de fois avec une coque, la fixation ceinture, et donc ton risque de mauvaise installation il est répété au quotidien. Pour un siège après standard, le siège une fois qu'il est installé, normalement il bouge plus. Donc
Il bouge pas,
voilà,
ouais,
tu n'as
c'est
plus
sûr.
ces manips répétées. En revanche, si tu dois changer de voiture, si tu dois prêter dans la voiture des grands-parents, si tu as deux véhicules,
Bah alors ça,
ah bah
c'est
là,
très embêtant.
ouais. Là, évident qu'un siège ISOFIX, c'est hyper intéressant. Surtout avec ces systèmes de base, comme tu dis, parce que tu pourrais très bien avoir deux bases et simplement déclipper le siège d'une voiture et le refixer dans une autre voiture. Et ça,
Ouais,
c'est
complètement.
hyper confortable au quotidien et rassurant, comme tu dis.
Ouais. Mais alors pareil, l'ISOFIX, moi tu vois par exemple mes parents ont pas, enfin ma mère oui, mais mon père n'a pas d'ISOFIX dans sa voiture, mais vraiment pas du tout. Donc là, ça pose problème par contre parce qu'on peut pas. D'ailleurs, on lui laisse la voiture quand
Ouais, le mieux, c'est de lui laisser le véhicule.
on lui laisse notre voiture, on prend la sienne et puis parce qu'au moins on est sûr parce qu'il n'y a pas d'ISOFIX et on va pas, enfin un siège ISOFIX, enfin en tout cas le mien ne peut pas se mettre en
Non,
ceinture.
c'est ça. Autant les coques, la plupart font les deux.
Ouais.
Pas toutes, il y en a quand même qui font que ISOFIX, mais c'est rare. Autant sur les sièges, d'après, c'est plutôt l'inverse. Il y a quelques sièges qui font les deux, mais la majorité, quand ils sont que ISOFIX. Donc, on ne peut
Ouais,
pas faire
c'est ça.
autrement. Donc, à moins d'acheter un deuxième
Donc
siège
là,
pour les grands-parents, ça, hein, ce que font certaines familles, mais prêter son siège, c'est bien
oui.
aussi.
Ouais, ça dépend. Ouais. Après, ça dépend de, ouais, des schémas. S'il y a plusieurs petits-enfants,
C'est
ça vaut le
ça.
coup d'investir aussi.
Exactement. Est-ce qu'ils le
S'il y en
prennent
a qu'un, bon,
souvent?
pas
Est-ce que...
vraiment.
Ouais,
Voilà.
bien sûr.
C'est ça. On va parler maintenant de Sécurange. Tu en as parlé au début. Tu as créé Sécurange pour informer. Aujourd'hui, sur Sécurange, il y a aussi des tests de sièges auto. Tu recommandes, enfin, tu testes les sièges et tu les recommandes ou pas, d'ailleurs. Il y en a que qui sont pas recommandés, d'ailleurs, sur Sécurange. Je ne sais pas.
Si tu veux,
Comment ça fonctionne?
je mets plutôt en avant ceux que je recommande. Évidemment, si on me
Ouais.
demande certains modèles que je n'ai pas mis en avant, bah, c'est des modèles que je n'ai pas rentrés dans ma sélection. Aujourd'hui, je parle vraiment de sélection. Tout ce qui est partie accidentologie, bah, ce n'est pas moi qui fais les crash tests, hein. Je m'informe beaucoup sur les crash tests qui sont faits en Europe, par l'ADAC principalement, mais aussi par le laboratoire VTI, par exemple. En tout cas, il y a des laboratoires indépendants qui font des crash tests supplémentaires. Supplémentaire pourquoi? Parce que forcément pour être vendu le siège il en fait déjà, mais ils font des crash tests qui peuvent pour certains sembler controversés, pas suffisants. Donc il y a des instituts qui ont décidé d'en faire en plus sous dans d'autres conditions plus rapides, etc. D'observer d'autres comportements et en effet bah, ils considèrent que certains modèles n'assurent pas suffisamment la sécurité. Donc bah, moi je me
D'accord.
base déjà sur ça pour faire ma première sélection. Et ensuite,
Ouais.
bah, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir tester les modèles plutôt en mode utilisation, installation, place pour l'enfant. Et en effet, moi, je fais aussi mes tests Et je complète avec mes connaissances. Je peux comparer parce que j'ai cette chance aussi de connaître tous les modèles du marché quasiment et de pouvoir vous dire celui-là par rapport à celui-là, il est plus incliné, moins incliné, plus de place, il s'installe plus facilement. Le harnais va monter plus haut, vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Voilà, c'est toute cette partie-là que moi je peux apporter en complément sur les tests que je fais sur les sièges.
Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Sécurange, c'est qu'en fait, tu as toutes les gammes de prix. Enfin, tu as aussi des, parce que c'est un budget quand même.
Ouais.
Un siège auto, faut pas se cacher. Ça coûte super cher. Bon, après, c'est un budget, mais qui dure dans le
Oui,
temps.
c'est vrai.
C'est pas quelque chose que tu changes tous les 6 mois, mais ça reste un budget et de l'argent à sortir. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, il y a toutes les gammes de prix parce qu'il y a
On
aussi des
essaye.
très bons sièges auto qui sont pas forcément, qui coûtent pas 1 000 euros.
C'est ça,
Enfin,
on
voilà.
essaye. Alors, c'est vrai qu'on est très dépendant pour le coup de la partie crash test indépendant et qui nous
Oui,
dit,
bien sûr.
malheureusement, c'est vrai que très régulièrement, il y a des sièges auto plutôt bas en prix qui sont pas forcément bien notés, mais pas tous. Et ça vaut le coup de mettre en avant cela parce que je trouve que voilà des marques qui se donnent du mal pour essayer de faire des sièges à bas prix qui restent quand même performants en cas d'accident, mais qui n'auront pas la fonction pivotante, qui auront des
Oui,
inclinaisons un
voilà.
peu moins, voilà des systèmes pour régler les harnais qui seront moins faciles. Oui, c'est vrai que on va perdre en peut-être confort d'usage, mais pas forcément au détriment de la sécurité. Donc c'est intéressant quand
Ouais.
même de mettre en avant tout type de produits, tout type de gamme. Et c'est vrai que oui, ça représente un budget. Après, pour rassurer les familles, elles ont tendance à penser qu'on va souvent changer de siège. Mais comme je te l'ai dit tout au début, au cours de la vie d'un enfant, c'est grossièrement 2 à 3 sièges. Dans l'idéal, c'est 3, hein. On passe par le siège bébé sur 0-1 an, le siège deuxième âge sur 1-4 ans et le rehausseur avec dossier sur 4 à 10-12 ans. Voilà, ça reste des approximations, hein, mais ça te
Je
donne.
suis dans l'approximation.
Voilà, t'es dans l'approximation. Voilà, moi j'ai des petits
Voilà, je
gabarits.
suis dans la
Je me
moyenne.
suis un peu décalée
Ouais.
sur les trucs, mais ça reste une moyenne pour un peu rassurer en tout cas les familles sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de 40 sièges et de 40, c'est un investissement. Et par contre, c'est aussi l'occasion de le dire, penser qu'on fait un bon investissement en choisissant un siège qui va faire 0-12 ans, c'est une mauvaise idée.
Ouais.
Ça
Bah,
existe,
c'est
hein,
ça.
ça le mérite, mais avoir un siège qui vous promet d'être aussi bien adapté à cette position qui a besoin d'être très couchée, très inclinée, tout en étant très enveloppante du nouveau-né. Cette position bien assise, large d'épaule, qu'on a besoin pour un siège d'enfant plus grand avec de l'espace à l'intérieur qui soit quand même suffisamment spacieux. Et enfin, le rehausseur qui doit parfaitement guider la ceinture, qui a besoin d'accoudoir d'accoudoir ou d'une forme spécifique pour guider la ceinture sur les hanches, qui a besoin pour le coup d'encore plus d'espace au niveau des épaules. Enfin, de penser qu'on peut tout faire avec le même siège, clairement, c'est impossible. Ce serait comme, on donne souvent l'exemple aux familles de dire c'est comme si vous essayiez de leur acheter une paire de chaussures qui va du 27 au 35 en mettant des réducteurs et des inserts. Ce sera jamais aussi bien qu'un siège pour chaque âge.
Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est, j'ai un, enfin, je pense, hein, ça c'est, tu me dis si je me trompe, mais que la principale motivation d'achat de ce genre de siège, c'est parce qu'on a l'impression que ça va durer dans le temps et qu'on fait des économies
Bien
finalement.
sûr, c'est le budget, c'est le fer de lance, et malheureusement, le marketing des marques est très fort là-dessus, en mode, on vous promet le nirvana, quoi, le tout en un pour mieux que ça. Et ça peut paraître être un bon investissement, et encore une fois, si c'est vendu, on a tendance à penser que c'est homologué, et que forcément c'est sûr, mais non. Il y a forcément un âge où il y a un enfant qui va être lésé sur ce type de siège. Soit il va être très bien incliné et top pour un tout petit. Mais bon, c'est assez rare quand même, hein, d'avoir quelque chose d'assez vraiment vraiment adapté à un nouveau-né dans les sièges évolutifs. Tous les réducteurs, tout ça, enfin, c'est vraiment histoire de compenser, mais tu n'obtiendras jamais quelque chose d'aussi bien fait qu'une coque qui a été moulée et conçue pour ce bébé, en fait. Ou alors, on vous promet un siège qui va jusqu'à 10-12 ans, et finalement, à 7-8 ans, ton enfant à l'intérieur, il est trop serré, et du coup, tu vas racheter un siège, en fait.
Et à partir de quand, parce qu'on arrive sur la fin, à partir de quand on ne met plus de siège auto à un enfant?
Donc, la loi dit est assez, j'allais dire, vague. Elle dit déjà 10 ans, parce que 10 ans, c'est important en termes de maturation osseuse. Mais elle parle aussi de taille adaptée, parce qu'on peut admettre qu'un enfant de 9 ans fasse déjà 1,50 m. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'il faut s'adapter à toutes les morphologies. Donc, dans l'idéal, on attend bien les 10 ans au moins. Ce qui ne veut pas dire qu'à 10 ans, on est assez grand. Moi, j'ai un enfant qui va avoir 11 ans et malheureusement, il est petit. Malheureusement,
Ouais.
pour ça, mais c'est pas gravissime, hein.
Oui.
Donc lui, il a toujours un rehausseur. Après, ça l'a jamais plus perturbé que ça. En fait, je pense que du moment où ça semble normal pour moi et il n'a pas eu trop à se comparer aux autres, donc tant mieux. Il a un corps en
Ouais.
taille, il fait à peine 1,30 m et c'est un corps trop juste pour que si je lui enlève, la ceinture sera pas bien placée sur lui, sûr. Après,
Ouais.
ça a aussi un autre intérêt aujourd'hui, c'est qu'il se repose, il a une posture de confort de sommeil qui est très agréable et que même quand il s'endort, la ceinture est toujours bien placée sur lui, ce qui sera pas le cas souvent, on voit dans les voitures quand les enfants s'endorment, ils s'affaissent
Ouais.
et la tête sur la vitre et en termes de sécurité, c'est pas idéal. Donc
Ouais, c'est
voilà,
clair.
10 ans c'est important et la taille adaptée, elle se situe suivant les voitures entre 1,35 m et 1,50 m et souvent franchement jusqu'à 1,45 m, c'est vraiment nécessaire parce que les ceintures arrivent de très haut et qu'à l'arrière, contrairement à l'avant, les ceintures ne se règlent pas en hauteur dans les voitures.
D'accord. Oui, parce qu'il y a de ça aussi, j'allais te poser la question, parce que j'ai l'impression que moi, dans mon enfance, ça a été un événement, le moment où j'ai pu passer à l'avant, parce que j'étais assez grande. C'est quoi les recommandations légalement? À quel moment un enfant peut aller à l'avant?
Bah, c'est les globalement les mêmes en fait, c'est 10 ans.
Ouais.
Hein, c'est 10 ans. En fait, c'est 10 ans ou qu'il ait du coup la taille adaptée, pareil. Ça va être la même chose. Quand il a plus besoin du siège, il peut passer devant, quoi.
D'accord. Mais c'est plus, du coup, c'est peut-être un peu plus sécurisé d'être à l'avant parce qu'il y a les airbags, je me dis, tu vois, les règlements de, tu peux régler la ceinture, il y a les airbags, est-ce que ça serait plus sécurisé d'être à l'avant qu'à l'arrière?
Bah, c'est une place qui est moins sécurisée en tant que telle. C'est aussi pour ça qu'elle dispose de dispositifs de sécurité plus
D'accord.
développés, parce qu'en fait, elle est plus proche de l'impact potentiel. Donc en cas de
Ouais.
choc, c'est les premières places avant qui sont le plus à risque. Donc non, c'est pas une place plus sûre, mais en effet, pour compenser ça, pour le passager, c'est une place qui a été dotée de plus d'éléments de sécurité pour essayer de compenser.
D'accord. Oui, il faut plus le voir comme ça plutôt qu'une éventuelle enfin, sécurité plus forte parce qu'il y a des
C'est
protections.
ça.
OK.
D'ailleurs, pour un enfant, l'airbag, c'est violent. Donc même si on a un enfant de 10 ans qu'on place devant, si on peut reculer au maximum le siège, s'il n'y a personne derrière, c'est mieux, puisqu'on peut lui épargner la violence de l'airbag qui se déploie. C'est hyper violent. Hyper violent. Donc ça protège,
D'accord.
hein, mais ça secoue. Donc si on peut lui éviter cette force et reculer sa banquette, c'est une bonne chose.
Ok. Bah super. Merci beaucoup, Marilyn, pour toutes ces informations. Alors, si on veut retrouver les crash tests et les conseils, enfin les pas conseils. Enfin, je vais pas dire conseils parce que c'est. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça d'ailleurs.
Si on fait de la prévention et des
Ta
conseils
sélection?
quand même. Ouais, je fais une
Ouais,
sélection.
voilà.
Donc, si on veut retrouver en effet les conseils et la sélection, on peut se tourner sur le site sécurange.fr. On a aussi le blog, donc sécurangeleblog.fr, qui est la partie plutôt test produit, actualité, nouveautés. Quand je vais sur les
Ouais.
salons, c'est toujours sympa d'ailleurs de voir un peu tout ce qui est un peu nouveau. Et on a aussi sur Facebook, on a l'association, parce que du coup, j'ai ouvert aussi une association qui s'appelle VDR by
D'accord.
Sécurange, VDR comme voyager de route, VDR by Sécurange,
D'accord.
qui regroupe des bénévoles un peu partout en France. On fait des ateliers auprès des familles, auprès d'assos, dans des magasins, dans des maternités. Et on conseille les gens sur Facebook aussi s'ils ont des questions vraiment, qui sont un peu perdus, qu'ils ont besoin de savoir bah, quel siège est le plus adapté ou s'ils n'ont pas trompé dans leur installation, etc. Ils peuvent se tourner vers les bénévoles sur le groupe Facebook de l'association
Ok.
VDR.
Et si jamais des auditeurs sont intéressés pour devenir bénévole, c'est possible? Enfin, vous cherchez encore des gens?
Alors oui, on peut être amené à chercher. Voilà, il y a deux types de bénévoles. Déjà, on cherche des adhérents, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aide les familles au quotidien. Mais le pourcentage d'adhérents est relativement faible. Donc déjà, si les gens veulent
Ouais.
nous aider en devenant adhérents, c'est 10 euros l'année, c'est déjà formidable. Ensuite, ils
Ok.
peuvent en effet se proposer pour venir aider, pourquoi pas, sur des ateliers et des interventions. Il y a des zones de la France qu'on couvre mal. Ils peuvent écrire sur le mail de l'association, association.sécurange, tu vois, @gmail.com. Ils peuvent écrire pour dire bah, j'aimerais bien aider. Et après, pour rejoindre vraiment l'équipe, bah, il y a un formulaire de recrutement. De temps à autre dans l'année, on recrute aussi des
D'accord.
membres d'équipe plus impliqués.
Ok. Bah super. Merci beaucoup
Bah
Marilyn pour
avec
toutes ces
plaisir, hein.
informations. Je
Merci de
pense
m'avoir
que
reçu.
ça va éclairer beaucoup de familles, beaucoup de parents qui se posent la question et qui n'ont pas forcément les réponses et pas les clés. Donc je te remercie vraiment beaucoup et je te dis à
À
bientôt.
bientôt, merci.
Voilà, maintenant tu sais tout sur la sécurité des enfants en voiture. Je t'invite vraiment à partager cet épisode au plus grand nombre pour que plus jamais un enfant ne soit mal installé dans un siège auto.
N'oublie pas de me taguer si tu partages sur Instagram @elise-du-bas prenons un café. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.